Vous écoutez RTL.
Et c'est l'heure de la revue de presse d'Amandine Bégaud. Amandine, décidément, les temps changent.
Oui, d'abord ce chiffre qui m'a interpellée ce matin. Plus d'un jeune sur trois cherche aujourd'hui l'amour sur Internet. Je ne pensais pas sincèrement que la tendance était aussi forte. Fini le jeu de l'amour et du hasard, le stress du boulot a remplacé le strass du premier rendez-vous. Voilà ce qu'écrit la Dépêche du Midi qui résume le phénomène en une avec ces trois mots, sexe, drague et Internet. 93% des 18-34 ans disent avoir déjà utilisé ou envisagé d'utiliser Internet pour faire des rencontres. 31% estime que les rencontres qu'ils ont faites n'auraient jamais eu lieu sans Internet. Plus surprenant encore, une fois en couple, 37% des jeunes n'hésitent pas à continuer à surfer sur les réseaux sociaux, à fouiller l'historique de navigation de leur compagnon. Pourquoi ? Officiellement pour en savoir plus sur lui, officieusement on se dit pour l'espionner. L'Obs, de son côté, s'intéresse cette semaine à la manière dont nos jeunes s'informent. Et là encore, je dois reconnaître que j'ai pris un sacré coup de vieux. Alors sans surprise, là aussi, c'est sur Internet que ça se passe forcément. D'après Médiamétrie, parmi les 15-24 ans, 7 sur 10 surfent chaque mois sur un site ou une application d'actualité. Il y a aussi YouTube, bien sûr. Les plus matures, explique l'Obs, ne manqueraient pour rien au monde. Verino, un vingtenaire monté sur pile qui poste chaque jour des vidéos. La mise en scène fait penser à un stand-up. Il y parle de tout, de l'affaire Alexia Daval à la bataille du clan Hallyday. Quant à la télé, les 15-24 ans la regardent, oui, mais en replay et pas dans le salon. La télé dans le salon, c'était les Mérovingiens. Voilà ce que lance un brin moqueuse Céleste. Elle a 16 ans. Elle, comme les autres, cette télé, elle la regarde donc en différé sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone portable. Ce qui les intéresse, explique Henri de Berme, ce n'est pas tant le support, mais le contenu. S'il leur déplaît, ils zappent. Résultat, les professionnels doivent s'adapter. Ce producteur explique ainsi avoir imaginé de plus en plus des formats 10 par 10. Ce sont des fictions de 10 minutes. Pas plus, les ados les consomment dans la salle d'attente du dentiste, dans le bus ou encore dans le métro. La télé, un truc de mérovingien, disait donc Céleste. Bah, pas tant que ça, Céleste. La revue Schnock, bon, c'est pour les vieux. Enfin, en tout cas, ceux qui ont plus de 16 ans, qui sort la semaine prochaine, nous propose un grand dossier consacré au pionnier de la télévision française, Pierre Tchernia. Monsieur cinéma, si vous êtes né avant 1967. Pour les plus jeunes, on pense à Magic Tchernia, le co-animateur des enfants de la télé. Mais Pierre Tchernia, c'était plein d'autres choses. Il fut ainsi, rappelle Schnock, le premier journaliste français à traiter Walt Disney de génie. Et ce, dès 1961, il lui consacre un reportage dans 5 colonnes à la une avant de créer l'Ami Public numéro 1, une émission dédiée justement aux films de Disney. Et c'est lui aussi qui, en avril 1955, fait un direct au fin fond d'une mine dans le Nord, à Lens. Un événement à l'époque, même les fans de mineurs, raconte son fils, n'avait jamais vraiment vu comment ça se passait sous terre. C'était la merveille de la télévision à cette époque, poursuit-il. Quand vous faisiez quelque chose, c'était souvent la première fois. Papa adorait faire découvrir des choses aux gens. Elle aussi a marqué la télé, mais dans un autre genre et à une autre époque. Loana, la star du tout premier Loft, fait son grand retour. Elle s'affiche resplendissante en une cette semaine du magazine Elle. Fini les tenues choc, elle apparaît en tailleur pantalon noir, amincie. Loana, la survivante, incarne, écrit le journal, presque 20 ans de bascule de la société française dans le siècle nouveau. Alors, il y a eu les moments fastes, le Loft, la descente sur les Champs-Élysées sous les hurlements d'une foule hystérique, les propositions en veux-tu, en voilà. Et puis, il y a eu la descente aux enfers pour Loana, drogue, tentative de suicide, la prise de poids jusqu'à 120 kilos. Et pourtant, elle n'a aujourd'hui, dit-elle, aucun regret, aucune rancœur. Elle qui a essuyé les plâtres de la télé-réalité. J'ai découvert, explique-t-elle, un monde inaccessible. Loft ou pas, j'aurais pété un câble. Ça a accentué mes travers. J'avais, conclut-elle, trop de fêlures. Alors pour en revenir à la jeunesse d'aujourd'hui, je vous conseille, si vous avez des enfants ou des petits-enfants entre 8 et 13 ans, le journal Albert, avec ce dossier sur les Césars. Ça a lieu ce soir, c'est donc l'occasion, on y apprend plein de choses. Les Césars ont été calqués, ça vous le savez sans doute, sur les Oscars américains. Si vous ne savez d'ailleurs pas pourquoi on les appelle Oscars, ces Oscars, eh bien on le découvre donc dans ce journal. Les récompenses du cinéma américain n'ont été surnommées Oscars qu'à partir de 1934, alors qu'ils ont été créés 15 ans plus tôt. Une légende raconte que ce nom viendrait d'une secrétaire de l'Académie, Margaret Herrick, qui serait amusée à comparer la statuette à son oncle, qui s'appelait Oscar. Le surnom a donc, à rien. A ensuite donc été adopté officiellement en 1939, les Oscars qui fêteront leurs 90 ans cette année. Et puis cela fait aujourd'hui 27 ans, jour pour jour, que Serge Gainsbourg disparaissait. C'était le 2 mars 1991. À ce sujet, je voulais vous signaler ce matin ce dessin d'Alex dans le Courrier Picard. On y voit Gainsbourg, une cigarette au bec, en train de lire un journal où il est écrit Paris. États-Unis, un prof tire sur ses élèves. Les cons, s'exclame Gainsbourg. Moi, je tirais les gonzesses et sur les clopes. Décidément, les temps changent.
Effectivement, merci. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.